La campagne pour les élections municipales, présentation des enjeux sur Point Bout. À suivre à la fin de ce journal, un nouveau débat avec les candidats en lice au Mont d'Or. Une nouveauté à l'UNC, le salon Master C'est Emploi pour favoriser la poursuite d'études et mettre en relation les acteurs du monde économique au sens large avec les talents de demain. Il est ouvert toute la journée. Quatrième jour de guerre au Moyen-Orient, Emmanuel Macron clarifie la position de la France. Elle va honorer ses accords de défense avec les pays du Golfe et déployer des moyens navals en Méditerranée avec l'envoi du Charles de Gaulle. Et puis dans la page sport du football, les Strasbourg premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Alsaciens, ce matin, ont sorti Reims. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Radio Rythme Bleu poursuit ses débats spéciaux municipaux. Hier midi, vous avez pu suivre le débat consacré aux élections à Païta. Et à 17h, ce sont les candidats en lice à Bouraille qui sont venus débattre sur notre plateau. Ce midi, quels sont les enjeux, les projets, les ambitions de chaque liste au Mont d'Or? 5 des 7 candidats seront en plateau avec nous. Annie Roisé, Elisabeth Rivière, le maire sortant, Pételo Sao, Nina Julier et Tania Waka. Nous donnerons la parole aux deux autres candidats pour cette commune du Mont d'Or et à Laval et Maria Isabella Saliga-Lutovica dans nos prochains rendez-vous d'information. Et notez d'ores et déjà un autre débat programmé cette semaine, ce sera vendredi midi. Et cette fois-ci, ce sont les candidats en lice à Dumbéa qui viendront débattre sur le plateau de Radio Rythme Bleu. En plus de ces débats, nous vous présentons dans nos journaux d'information les enjeux dans les autres communes du territoire. Intéressons-nous ce midi, Léo Fichou, à la commune de Point-Bout. 3062 habitants et 3 candidats en lice.
Oui, une forte croissance, plus 11% entre 2019 et 2025 pour cette commune de la province nord située à environ 240 km de Nouméa et à seulement quelques minutes de Conné. Une commune essentiellement rurale, agricole, notamment avec son lycée Michel Rocard. Point-Bout joue également un rôle important dans l'exploitation du nickel dans le nord. Et cette année, vous le disiez, 3 candidats sont en lice pour les élections municipales. On retrouve d'abord Jean-François Porimpoea, salarié de la SLN. Il conduit la liste UC, main dans la main pour Point-Bout.
Pour nous, c'était devenu un peu un renouveau qu'il fallait porter au niveau de Point-Bout. Donc ce que nous prenons un peu, c'est le changement. Le changement pour faire une collaboration étroite aussi avec toutes les communautés de Point-Bout et aussi de prendre un engagement durable avec toutes les parties qui composent la commune de Point-Bout. Pour nous, il y a les 3 grands axes qui se dégagent. C'est de protéger et éduquer pour l'avenir, tisser le lien social aussi et citoyen, et puis aussi de bâtir et de cultiver notre cadre de vie de demain, donc pour la commune de Point-Bout. On voudrait prôner, si on est élu demain, donc la proximité, et aussi on parle de continuité, mais on parle surtout de nouveauté, du social, de la jeunesse, culture intergénérationnelle. Et on parle de l'économie et on a aussi cette partie environnementale puisque Point-Bout est une commune minière et aussi la partie sécurité avec tout ce qui est incivilité, etc. Et puis aussi la partie infrastructure où il y a des aménagements à faire, les routes, au niveau des maisons communes des tribus, ou que ce soit aussi au niveau du village aussi, ou dans les quartiers, etc.
Le deuxième candidat à Point-Bout, donc, c'est Jimmy Naouna, à la tête de la liste Unie pour un destin commun, une liste soutenue par l'UNI.
Les amnistés, donc cette année du changement, nous allons proposer dans un programme qui va être co-construit avec nos concitoyens, donc des axes prioritaires, majeurs pour la prochaine mandature. D'une part, donc, assurer et maîtriser les finances de la commune, qu'on priorise les actions pour la prochaine mandature, pour renforcer les infrastructures communales, que ce soit l'AEP, les routes, l'électricité, etc. Également, donc, poursuivre des actions en matière d'aide sociale, de transport scolaire pour les enfants, les cousines, etc., qui ont été fragilisées par la crise. On a également recherché, trouver un équilibre, donc assurer un équilibre entre le développement économique de notre territoire, de la commune et l'environnement. Et également, donc, renforcer la cohésion sociale. Donc, vous savez que Point-Bout, depuis on ressemble à Point-Bout, on le vit depuis des générations. Hein, donc, c'est sur cette base-là qu'on veut améliorer la cohabitation et la cohésion sociale entre les différentes ethnies qui sont sur le territoire de la commune. Puis les jeunes s'impliquent également dans la vie citoyenne de la commune et développer justement des espaces d'échange intergénérationnels.
Et enfin, le troisième et dernier candidat à Point-Bout n'est autre que le maire sortant, Yann Peraldi. Enseignant à la retraite et éleveur, il mène la liste Mouvement Citoyen, un mouvement qu'il dit apolitique. Yann Peraldi veut continuer le travail mené depuis plusieurs années.
La continuité, ce n'est pas l'immobilisme, hein, donc on a des perspectives intéressante, hein, la commune de Pramoutin, après une gestion rigoureuse qu'on a démontrée tout au long de ce mandat. Notre programme, hein, qui est réaliste, hein, décliné en cinq thématiques, hein, toutes les actions qui s'inscrivent dans l'amélioration du cadre vie, hein, donc avec des projets structurants, hein, des gros projets porteurs, hein, la requalification de la traversée du village, hein, pour sécuriser et embellir notre village, la reconstruction de la mairie par exemple, le domaine de la sécurité est mis également en exergue, hein, avec la poursuite de l'éclairage public, un programme de vidéosurveillance. On n'oublie pas le lien social, hein, avec des actions en faveur de la jeunesse, mais également des seniors, hein. On a un axe bien entendu patrimonial et environnemental. Je pense notamment au centre de tri et de transfert, hein, qui va permettre de fermer définitivement notre dépotoir, hein. L'amélioration de la qualité de l'eau avec un projet d'installation d'une station de traitement du fer et de manganèse. Et bien entendu, je n'oublierai pas le soutien, hein, au grand projet structurant, hein, du barrage à usage multiple qui est envisagé dans la commune.
Je rappelle donc les trois candidats aux élections municipales à Pointe-Boute. Jean-François Porin-Poéa qui conduit la liste UC, main dans la main pour Pointe-Boute. Jimmy Naouna à la tête de la liste Uni pour un destin commun soutenu par l'Uni. Et enfin le maire sortant Yann Peraldi avec sa liste Mouvement Citoyen.
Au chapitre des faits divers, un accident de la circulation hier soir à Nouméa. Il s'est produit vers 21h20 sur la route de Lanzvata au niveau du Faubourg Blanchot. Un motard a été gravement blessé après une collision avec une voiture. Il a été évacué au Medipôle par une équipe du SAMU avec plusieurs suspicions de fractures. Et puis ce matin vers 7h20, une collision s'est produite entre deux véhicules à proximité de la station Shell Victoire à Nouméa. Il a fait une blessée. La conductrice de l'un des véhicules, âgée d'une quarantaine d'années, a été légèrement touchée. Trois véhicules des sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour régler cet accident. Et puis la province Sud publie un communiqué informant, je cite, d'un déversement de faible ampleur de fioul lourd à PRNC en provenance d'une ligne reliant le quai cargo aux cuves HFO du port. Selon les premiers éléments transmis, il s'agirait d'une fuite de type goutte à goutte estimée à 0,2 litres par minute qui a généré des irisations en mer en direction de l'île Ocasie. La durée exacte de la fuite reste à déterminer. Le déversement est désormais canalisé par une gouttière et récupéré dans un bac de rétention. Un survol de la baie par drone a été engagé afin d'évaluer le nombre et l'étendue des irisations. Et la DIMINC se déplacera sur site pour constater les faits et analyser les circonstances de l'incident, tant sur l'origine de la fuite que sur l'efficacité du système de confinement. À 11h39, la première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Troisième jour sans vol, Aircal. Les aérodromes des îles sont toujours bloqués par les collectifs d'usagers opposés au déménagement des activités de la compagnie de Magenta vers Tontouta. Mouvement que les manifestants qui réclament un retour des liaisons sur Magenta disent vouloir inscrire dans le temps. Ce mouvement ne perturbe pas les vols internationaux, notamment ceux opérés par Aircalin, ni le fonctionnement de l'aéroport de la Tontouta. La partie de l'aéroport désormais réservée aux vols domestiques est simplement vide de passagers depuis trois jours maintenant. On rappellera d'autre part que le Petit Show est lui toujours inopérant. Alors que les équipes travaillent à la remise en état d'un moteur, il reste indisponible jusqu'à nouvel ordre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier et 73% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la situation de blocage des aérodromes des îles va durer longtemps. Ils sont 25% à penser que la situation va rentrer dans l'ordre rapidement. Et puis voici notre question du jour. Le nombre et la taille des requins qui ont été prélevés justifient-ils, selon vous, la campagne menée par la province sud et par la mairie de Nouméa? Si vous pensez que cela justifie la campagne de prélèvement, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Attention à la prescription biennale en matière d'assurance. À l'approche du 14 mai, c'est-à-dire 2 ans après les émeutes, la CCI alerte les entreprises impactées. Passé ce délai, les assureurs peuvent refuser toute indemnisation, même si un dossier est en cours. Face à cette situation, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie engage les entreprises à agir sans attendre. Pour cela, elle met à disposition une note juridique sur son site internet et un accompagnement personnalisé réalisé par un expert. De l'animation ce matin sur le campus de Nouville pour le salon Masters et Emploi 2026. Il se déroule jusqu'à 14h sur l'Agora de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Lionel Sabot.
Un salon qui est au cœur d'une semaine consacrée à l'UNC, à la recherche scientifique et à l'insertion professionnelle des étudiants, destiné aux étudiants en dernière année de licence, mais ouvert à l'ensemble des étudiants du campus. Le salon, qui réunit responsables de formation et acteurs du monde socio-économique, répond à une volonté de favoriser la poursuite d'études et de mettre en relation les acteurs du monde économique au sens large avec les talents de demain. Laurence Kerdoncuf est responsable du service de l'orientation, des formations et de l'insertion professionnelle à l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
Est-ce que je poursuis mes études vers un master, oui. Ici ou ailleurs d'ailleurs, oui. Est-ce que j'accède directement au marché de l'emploi après mon bac plus 3, oui. Ou alors est-ce que je choisis de vivre une autre expérience, type la césure, une mission à l'international avec France Volontaire, un service civique, une certification en langue, une formation à l'entrepreneuriat avec Pépite. Donc voilà, c'est vraiment de leur donner toutes les clés pour... Après, on s'est ouvert en priorité à nos dernières années de licence, mais en réalité, on l'ouvre à tous nos étudiants parce que c'est intéressant pour eux de se projeter. Voilà, dès la première année. On l'ouvrait bien évidemment aussi à nos étudiants de master, parce qu'on a ici pas mal d'employeurs, et même à nos alumni, à nos diplômés des 2 dernières années.
Un salon qui a attiré un très grand nombre d'étudiants ce matin, mais aussi de très nombreux partenaires de l'université, partenaires privés et publics. Un salon important aux yeux de Jamila, en 3e année de licence en sciences de l'environnement.
Découvrir les différentes choses proposées, que ce soit à l'université, mais autour, au niveau des employeurs et tout. Et peut-être avoir plus d'informations sur mes recherches, que ce soit au niveau de après ma licence ou au niveau de stage et tout. C'est vraiment important parce que ça nous permet, c'est comme si sur place et ça nous évite de. On peut accéder directement avec eux, parler, échanger et donner nos CV, nos lettres de motivation et tout.
Ce salon se poursuit jusqu'à 14h sur l'agora du campus de Nouville. Notez toujours dans l'actualité de l'Université de la Nouvelle-Calédonie que c'est ce soir à partir de 17h30 qu'aura lieu la finale locale de ma thèse en 180 secondes. 7 doctorants viendront présenter leurs travaux en 3 minutes chrono. Rendez-vous ce soir 17h30 à l'Amphiguillaniel.
En bref, ce très beau rendez-vous céleste hier dans le ciel de Nouvelle-Calédonie que vous n'avez pas manqué, Lionel. Une éclipse totale de lune qui a pu être observée dans son intégralité. Un peu après 22h, la surface de la lune a pris une couleur orangée lorsqu'elle s'est retrouvée dans l'ombre de la Terre. Plusieurs dizaines de personnes ont suivi le phénomène à la Maison de la Biodiversité, où l'Association calédonienne d'astronomie avait mis des instruments à disposition du public. La prochaine éclipse totale de lune visible depuis la Calédonie, ce sera en 2029. L'actualité dans la région rejoint la guerre au Moyen-Orient. Après l'Australie et la Nouvelle-Zélande hier, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a annoncé à son tour soutenir l'opération militaire contre le régime de Téhéran. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le premier ministre papou, James Marape, a déclaré hier que, je le cite, « Notre pays s'est toujours opposé au terrorisme et nous soutenons donc sans réserve les frappes aériennes que les États-Unis et Israël ont conduites contre le régime iranien. Il a ajouté avoir également sollicité l'aide consulaire de Canberra afin d'inclure les ressortissants papous bloqués au Moyen-Orient dans tout plan d'urgence d'évacuation que l'Australie viendrait à organiser afin de rapatrier ses propres citoyens. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a indiqué ce matin qu'un premier vol en ce sens pourrait quitter Dubaï dans la journée. Mais cela dépendra évidemment des circonstances, a-t-elle insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
La guerre au Moyen-Orient et la France qui clarifie sa position vis-à-vis de ce conflit. On en parle après une nouvelle pause dans ce journal.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
que vous faites brille de joie et de sérénité. Formula 4D veille sur votre confort et élimine cafards, termites et rats.
Joyeux Noël!
Avec Formula 4D.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon, Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Jean-François Boudin.
Et le quatrième jour de guerre au Moyen-Orient, la coalition américano-israélienne poursuit ses bombardements sur l'Iran. Ils visent principalement les cadres du régime iranien et les installations militaires. Les ripostes iraniennes visent principalement les pays de la région, notamment ceux du Golfe. L'armée israélienne mène aussi des opérations militaires au sud Liban et espère cette fois-ci venir à bout du Hezbollah, le mouvement terroriste qui a tiré ces derniers jours des roquettes sur le nord du territoire israélien. Au quatrième jour de guerre, Emmanuel Macron clarifie la position de la France. Le chef de l'État français n'avait pas été averti par les USA et Israël du début de l'opération militaire. Et quatre jours après ce début des hostilités, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français dans une allocution télévisée tôt ce matin pour nous. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Face à une guerre dont il impute la responsabilité à l'Iran, Emmanuel Macron appelle par principe à un arrêt des frappes et à une reprise des discussions, tout en se montrant pragmatique. La sécurité des bases militaires françaises de la région a ainsi été renforcée et le rapatriement des Français présents sur place a débuté.
Je sais l'angoisse, l'impatience qui existe, mais je veux ici vous dire que les équipes sont pleinement mobilisées pour organiser les retours dans les meilleures conditions.
Sur le plan militaire, Emmanuel Macron annonce que les accords de défense avec le Qatar, le Koweït ou les Émirats Arabes Unis seront respectés. Des rafales, des systèmes de défense anti-aériennes et des radars aéroportés ont ainsi été déployés sur zone ces dernières heures, annonce le président.
Il en va de la crédibilité de la France, d'être ce partenaire de confiance qui honore ses engagements, surtout dans ces temps troublés.
Paris renforce également sa présence en Méditerranée avec l'arrivée prochaine du porte-avions Charles de Gaulle donc, mais aussi l'envoi d'une frégate à Chypre, également touchée par des frappes. Enfin, pour limiter une possible crise de l'énergie, Emmanuel Macron dit vouloir agir, y compris militairement, pour rouvrir le détroit d'Ormuz, actuellement fermé par l'Iran.
La riposte iranienne aux frappes américano-israéliennes vise surtout les pays du Golfe où la plupart des aéroports sont fermés partiellement ou totalement. Ces quatre derniers jours, 19 000 vols ont été annulés et 2 millions de voyageurs sont impactés. Cette nuit encore, une attaque de drone a touché l'ambassade américaine à Dubaï sans faire de victimes. La France s'organise donc pour venir en aide à ses ressortissants. Antoine Bienveau.
La France prépare d'abord l'évacuation des personnes les plus vulnérables qui sont invitées à se mettre en relation avec les différentes ambassades sur place pour être rapatriées. Concernant les 25 000 Français qui ont émis le souhait de quitter la région, en revanche, la situation est plus compliquée. Le Quai d'Orsay les invite principalement à se rabattre vers les vols commerciaux d'Air France qui reprennent faiblement dans certains pays. Mais les avions sont rares et les places quasiment introuvables, comme le constate Myriam, bloquée à Dubaï avec son mari et ses deux enfants.
Nous n'avons aucune nouvelle sur un vol de retour. J'ai de suite contacté l'ambassade, mais à ce jour, nous n'avons aucun contact avec l'ambassade. On n'a aucune information. On est vraiment livré à nous-mêmes.
Pour les Français coincés comme elle à Dubaï, le Quai d'Orsay préconise un voyage par la route vers le pays voisin d'Oman, où les vols sont plus fréquents. En ce qui concerne enfin les ressortissants qui souhaitent quitter Israël, la France leur conseille, dans la mesure du possible, de gagner l'Égypte ou la Jordanie pour y trouver un vol commercial. Des équipes consulaires ont d'ailleurs été déployées aux deux frontières pour faciliter leur passage.
Et Israël fait partie des pays également visés par les frappes iraniennes et celles du Hezbollah, le mouvement terroriste alimenté et soutenu par le régime de Téhéran. Ces frappes ont fait plusieurs dizaines de victimes en quatre jours. Malgré tout, une majorité d'Israéliens soutient les actions militaires menées par l'armée américaine et par Tsahal.
C'est compliqué, c'est vrai, forcément, ça fait deux ans qu'on est en guerre. C'est très difficile mentalement pour tout le monde, mais je pense que cette guerre est nécessaire pour en finir avec cette menace nucléaire qui pèse sur nous. La seule solution, selon moi, c'est remplacer ce régime qui oppresse le peuple.
C'est quelque chose qui était inévitable. On a un État iranien qui menaçait depuis des années et des années Israël de destruction. C'est une guerre indispensable pour l'État d'Israël à rester encore debout.
Ça apporte un espoir d'avoir enfin un soutien. On n'est plus seul face à cette situation, face à se battre contre tous nos voisins.
Cette guerre impacte donc toute la région et un point concentre toutes les attentions, le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% de la consommation mondiale de pétrole, mais qui est aussi un lieu de passage vital pour l'acheminement des matières de toute nature. De nombreux navires sont donc bloqués et tentent de se mettre à l'abri des zones visées par les échanges de tirs. Caroline Baudry pour Europe 1.
Un arrêt de facto depuis le début des frappes de toutes les activités des bateaux qui se trouvent dans le golfe Persique. Ce sont donc des dizaines d'immenses porte-conteneurs avec leurs bords, des voitures, marchandises et tout un tas de produits industriels qui sont désormais stationnés, regroupés sur ordre de leur compagnie. Parmi eux, environ 50 bateaux contrôlés par la France se sont amarrés dans les zones les moins exposées. Laurent Martins est délégué général d'Armateurs de France.
Normalement, ils sont dans des zones qui sont moins exposées. De là à dire qu'il n'y a aucun risque, puisqu'on est dans une zone de guerre et que depuis deux jours, il y a 5 ou 6 bateaux qui ont fait l'objet d'attaques directes ou indirectes. Certains d'entre eux étaient en train d'essayer de traverser le détroit, donc c'est ce qui n'est absolument pas recommandé, mais pas que.
Les belligérants livrent dans le Golfe une véritable bataille navale. Les États-Unis ont affirmé hier avoir coulé les 11 navires de guerre iraniens qui se trouvaient dans le Golfe d'Oman. En face, un responsable iranien a menacé de brûler tout navire tentant de franchir le détroit d'Ormuz.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le 4e jour de la guerre au Moyen-Orient. Il est 11h50. 2 minutes, la dernière pause de ce journal avant la page sport et ensuite ce sera le débat spécial municipal consacré ce midi à la commune du Mont d'Or.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Élection municipale à Nouméa, information pratique. Le scrutin se tiendra le dimanche 15 mars de 8h à 18h.
Les bureaux de vote ont été regroupés et répartis dans 8 lieux de vote à Nouméa. L'hôtel de ville, la salle de sport Wawanabou à Lansvata, la salle Jean Noyant à Lansvata, le collège Jean Lec à Magenta, le collège François Olivaux aux Portes de Fer, le groupe scolaire Marie Courtois Henriette Gervolino au 6e kilomètre, le centre culturel Kowekara, le groupe scolaire Céline Tessandier de Lobared à la Vallée du Tir.
Pour connaître votre lieu de vote, contactez le 27 31 15. Consultez le site internet www.nouméa.nc ou rendez-vous directement à l'hôtel de ville. En cas de second tour, les mêmes lieux de vote seront conservés.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Jean-François Baudin.
À la fin du journal avec le sport et du football. Le coup d'envoi ce matin des quarts de finale de la Coupe de France. Il n'y avait qu'un match au programme, Lionel.
Une rencontre entre Strasbourg, club de Ligue 1, et Reims, club de Ligue 2. Et la logique sportive qui a été respectée, puisque devant leur public à la Méno, les Strasbourgeois sont imposés 2-1. Tout s'est joué dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, avec 2 pénaltys transformés par Strasbourg et un but dans les arrêts de jeu des Rémois qui ont sauvé l'honneur suite des quarts de finale de cette Coupe de France demain et vendredi matin pour nous. À suivre demain matin Lorient-Nice et Marseille-Toulouse et puis vendredi matin, ne pas manquer le choc entre Lyon et Lens.
Le tennis, pour faire un point sur les qualifications du tournoi d'Indian Wells, c'est aux États-Unis.
Et chez les messieurs, ça passe pour Benjamin Bonzi qui s'est qualifié en 3-7 sur le japonais Shinaro Mochizuki. Score final 6-4, 5-7 et 6-3. Chez les dames, qualification de Diane Parry qui s'est imposée sur l'Australienne Lulu Sun, score final 6-2, 6-3. Et puis, en revanche, élimination de Léolia Jean-Jean qui s'est inclinée devant une autre Australienne, Storm Hunter, score final 6-2, 6-2 en faveur de l'Australienne.
On passe au sport en Calédonie, on va d'abord parler squash.
Oui, avec l'Open d'ouverture qui se poursuit, on jouera les demi-finales. Ce sera bien ce soir à partir de 17h30. La première demi-finale à 17h30 verra une confrontation entre Gaël Gosse et Nicolas Faure. La seconde demi-finale à 18h30 verra une confrontation entre Nicolas Massenet et Johan Braun.
Et puis au stade PLGC à Nouméa, Michael Juneski, c'est une matinée dédiée au sport scolaire qui est organisée aujourd'hui.
Oui, une action mise en place par l'UNSS en cette période de début de l'année scolaire. Ce mercredi, les élèves en classe de 6e du collège Baudoux participaient tout au long de la matinée à différents ateliers, sport individuel, sport collectif et même quelques surprises comme du cirque. Ils ont apprécié.
Moi j'aime bien l'athlétisme, le basket, on a fait que 3 ateliers avec le cirque et franchement c'était trop bien.
On a fait basket, athlétisme,
athlétisme et cirque. Moi j'ai aimé tout, j'ai préféré un peu le cirque. On a fait avec les fleurs et les bâtons. J'ai fait le basket, le cirque et puis l'athlétisme. Ça m'a beaucoup plu.
Génial parce qu'au moins on peut un petit peu jouer en dehors d'un établissement.
Une opération qui vise à promouvoir l'offre sportive dans les établissements scolaires et à rappeler l'importance pour les jeunes de pratiquer des activités physiques. Les précisions de Patrick Vernet, que l'on connaît comme champion de triathlon, qui est aussi professeur de PS au Collège Baudoux.
Les collèges et lycées, on essaye de motiver, de sensibiliser les élèves à la pratique sportive ce jour-là, en plus de tous les autres jours qui sont nécessaires, évidemment. Pourquoi ? Parce que, évidemment, moi je préfère avoir un élève qui fait une course de vitesse de relais avec un témoin dans les mains plutôt qu'un téléphone. Nous, on a vraiment ce souci. Ici maintenant avec les jeunes collégiens, c'est le téléphone souvent, ils sortent plus, c'est téléphone sur téléphone. Le sport par contre et l'activité physique, ils en ont de plus en plus besoin et c'est notre cheval de bataille on va dire. C'est là aussi raison pour laquelle on essaye d'avoir le maximum de licenciés chez nous à l'association sportive. Donc on fait le nécessaire, on propose des activités ludiques hein, comme le basket, le football, le cirque, l'athlétisme. Pour leur donner un petit peu le goût de l'effort parce que c'est quand même ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Surtout pour des raisons de santé, être en bonne santé parce qu'on a beaucoup de jeunes qui souffrent un petit peu d'embonpoint et qui sont un petit peu en surpoids. Tout effort leur paraîtra moins pénible dès qu'ils auront compris que l'EPS, ça permet vraiment justement de rester en forme.
Et notez que parmi les ateliers, les collégiens pouvaient aussi participer à une formation aux gestes de premier secours avec la Croix-Rouge.